Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Merci d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. Et autour de la table aujourd'hui, on a Rémi Barré, on a le journaliste Thierry Moreau, on a l'entrepreneur et militante féministe, c'est notre recrue, notre nouvelle recrue, Élise Gottfarb. Et on a également Fred Hermel. On est avec vous également au 3216 pour réagir à l'augmentation des comportements imprudents à la mer ou à la montagne. Est-ce qu'il faudrait mettre des amendes aux personnes irresponsables? N'hésitez pas à nous donner votre avis au 3216 et sur l'appli RMC. 14h30, ce sera RMC Conso. On vous dira comment bien choisir vos lunettes de soleil, car oui, le soleil va bien. Il va bien un jour revenir. Hein. Et donc, il faudra mettre des lunettes de soleil, évidemment. Il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, on parlera notamment de Marion Maréchal qui déclenche une polémique au sujet de la GPA. On parlera de Emmanuel Macron qui fait du foot. Et de la France qui reste numéro 1 mondial des cotisations patronales.
Oh, quelle surprise. Et on vous fait gagner beaucoup d'argent également sur AMC.
Oui, exactement. Demain, à la même heure, un heureux gagnant sera avec nous pour gratter l'un des tickets RMC. Et il peut y avoir à gagner jusqu'à 26 000 euros. Tout à l'heure, je vous donnerai le décompte. Vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant chance par SMS au 732-16. Chance par SMS au 732-16. Restez avec nous aux alentours de 14h30, 14h40, 45. Je donnerai le top départ.
Ah, génial.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la réflexion du jour, et c'est celle de plusieurs préfets et maires qui en ont un ras-le-bol du comportement irresponsable de certains vacanciers et qui souhaiteraient pouvoir leur infliger des amendes. Escalade du Mont-Blanc en basket, baignade lorsqu'il y a drapeau rouge, pêche à pied sans consulter l'horaire des marées. Chaque année, des accidents parfois mortels ont lieu à cause d'imprudence, Rémi.
Mais ça en agace plus d'un, c'est peu de le dire. À commencer par le préfet maritime de la Manche. Il s'appelle Marc Véran et il a tenu une conférence de presse sur le sujet, foudrage, il le dit lui-même. Il a rappelé que depuis le début de l'année, 6 personnes ont déjà perdu la vie sur les plages françaises de la Manche et de la mer du Nord, emportées par la marée. Je vous rappelle que la marée, c'est prévisible. Il déplore l'imprudence des baigneurs ou des promeneurs. Le préfet précise que depuis le 1er janvier, ses services de secours ont déjà fait sortir l'hélicoptère à 18 reprises pour 15 heures de vol. C'est à la louche, dit-il, environ 225 000 euros dépensés pour sauver des gens qui se sont mis en difficulté alors qu'une simple lecture des horaires de marée aurait permis d'éviter cela. Voilà ce que dit le préfet maritime, sans compter la mise en danger des sauveteurs bénévoles de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Alors, pour dissuader les imprudents, une réflexion est en cours. Le préfet maritime de la Manche se demande s'il faut mettre en place des amendes. Mais alors, sur quelle base? C'est une interrogation. Ou alors, des photos. Il va très loin. Il dit, ou alors, est-ce qu'il faut afficher les photos des cadavres repêchés? Il le dit lui-même, hein, il est foudrage. Colère du haut fonctionnaire, qui n'est pas sans rappeler les coups de gueule réguliers poussés pratiquement chaque été par le maire de Saint-Gervais face au comportement de certains touristes dans le secteur du Mont-Blanc. Tu l'as dit, certains qui entreprennent d'aller découvrir la mer de glace en basket. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris ce matin, découvert ce matin le bilan des morts qui ont été surpris par des baïnes, vous savez, dans le sud-ouest sur l'Atlantique. En 2023, 14 morts, rien que pour l'année 2023. Et là aussi, il faut le rappeler, lorsqu'il y a danger de baïnes, c'est systématiquement signalé.
Exactement, oui, les médias en parlent énormément, ces drapeaux rouges, évidemment. Faut-il infliger des amendes aux imprudents à la mer ou à la montagne, Fred Hermel?
Oui, bien sûr. À partir du moment où l'information a été donnée, alors s'il n'y a pas information, c'est un problème de l'État et des autorités. Mais en général, il y a l'information, donc le bon sens doit primer, et l'information doit primer, donc c'est normal. Moi, je me souviens d'une histoire qui avait eu lieu il y a de nombreuses années. Je crois que c'était au Mont-Blanc, des gens qui avaient été coincés, qui avaient été un peu imprudents, et puis ils avaient réussi à se sauver pendant plusieurs jours, etc. Ça avait coûté un fric monstre pour aller les récupérer en hélicoptère, et ensuite, ces gens avaient vendu l'exclusivité de leur récit à un salaire magazine.
Mon Dieu.
Et ça avait fait scandale à l'époque en disant, attendez, votre imprudence, non seulement votre imprudence a coûté de l'argent, mais en plus vous faites de l'argent là-dessus. Donc oui, bien entendu, il faut être responsable. Ou alors, il y a des assurances, on a tous qu'on appelle ça la... Responsabilité civile. La responsabilité civile, si c'est pas l'État, c'est aux assurances de payer si elle est imprudente, ce genre d'imprudence. Mais donc je trouve ça.
Le problème, c'est que les assurances, c'est nous qui paierons.
Finalement,
c'est la solidarité,
c'est un vrai problème.
Et quand c'est ton assurance qui paye, tu le vois pas et tu dis c'est pas grave, je recommencerai.
Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que franchement, quand il y a les grandes marées, etc., c'est beau, mais vous voyez très bien des vagues qui sont monstrueuses.
Non, tu les vois pas.
Non, mais
marée basse, pour reconnaître bien.
Mais même, parfois, on les voit quand il y a grande marée. On voit, et sur la berge, vous avez des gens, on les prévient que c'est dangereux.
Quand c'est marée montante.
Ils sont là et ils font des selfies. Oui. Mais tu te dis, mais à quoi tu penses?
Parce qu'il n'y a pas assez de prévention aussi. Moi, cet hiver, j'étais au ski. Je te donne un exemple très concret qui m'a touchée. Cet hiver, j'étais au ski. Et un soir, on est au resto avec des potes et on se dit, on rentre en luge. On fait la piste de ski en luge. Mais il est genre minuit et on est bourré. Elle était fermée, bien sûr.
Donc on
descend en luge. Mais c'est a priori quelque chose qui se fait.
Ah non.
On descend en luge et j'arrive en bas de la piste. Donc déjà, j'ai eu bien peur parce qu'on était quand même dans le noir le plus total.
Se déplacer en montagne l'hiver la nuit, c'est totalement irresponsable.
C'était d'usage qu'ils prêtaient des luges pour descendre
la piste. Moi aussi, j'ai déjà fait.
Et qu'est-ce que j'apprends? C'est que l'année d'avant, trois ans avant, une femme était morte en faisant ça parce qu'elle s'était retrouvée dans une dameuse. Mais j'étais pas au courant. Si j'avais été au courant, je ne l'aurais jamais fait.
Il
y a un problème de prévention.
Moi, je l'ai déjà fait aussi. Et quand en fait on te prête une luge, tu te dis et que c'est des gens
tu
de la station,
bon, ils sont safe.
Tu te dis c'est cool. Et puis derrière tu te rends compte qu'en fait, comme tout le monde a à peu près picolé. Et c'est hyper dangereux.
Pour la sécurité routière, en fait, faudrait faire des campagnes ciblées, localisées, tu vois. Moi, mettre les photos de cadavres. C'est comme les cadavres sur les paquets de clopes. Je trouve ça super. Ça décourage.
Excuse-moi, Élise, avec tout le respect. Franchement, on va faire une campagne en disant attention, si vous êtes bourré et que la piste est fermée, qu'il est minuit,
la dernière meuf qui a fait ça, elle est morte dans une dameuse.
Sauf que la différence, c'est quand quelqu'un de la station te file, qui est censé quand même.
Il est responsable.
Je suis d'accord. Parce que ça me serait pas venu à l'esprit de venir avec ma propre luge sur une piste fermée.
Il est responsable.
C'est mis en danger de la vie d'autrui.
Et sur les grandes marées, quand tu fais de la pêche à pied, effectivement, la mer se retire très loin. Et en fait, si tu ne connais pas, et parce que c'est pas dit partout, si tu connais pas, je t'assure, la mer elle monte à une vitesse.
On va mettre des panneaux, attention, la marée monte.
Non, tu vas mettre des panneaux, attention.
Je suis d'accord pour mettre des amendements.
Mais oui.
Ça va à la vitesse d'un cheval au galop.
Exactement. On te l'apprend quand t'es petit, mais quand tu l'as pas encore vu, je peux t'assurer que. Et moi, j'en ai vu, des personnes qui tout d'un coup, tu te dis, oh là là, elle est un peu loin, elle est toute seule, et tu te dis, mais la personne ne voit pas que c'est en train de monter. Et à chaque fois, tu te fais un peu des stress, et tous les ans, les mecs vont chercher des gens qui pêchaient des palourdes là, et qui ont mis leur vie en danger pour pêcher trois couteaux. Mais est-ce qu'on met des amendes ou pas? Parce que
je serais impitoyable.
S'il n'est rien arrivé.
Non, mais si on a déclenché des secours qui ont coûté de l'argent, on fait payer une amende si un règlement a été enfreint. On passe notre temps sur ce plateau à dire qu'il faut respecter les règles, arrêter les incivilités, apprendre aux plus jeunes, dès le plus jeune âge, à respecter le vivre ensemble, etc. Et là, on a des abrutis qui vont la nuit sur de la luge ou font du hors-piste aussi, parce que soi-disant c'est plus grisant du truc sur les pistes, c'est pas bien. Et là où vous avez mis le doigt sur un truc intéressant, c'est que c'est avec la complicité des locaux, parce que la luge, c'est pas toi qui l'as apporté. Le hors-piste, quelquefois, on vous le suggère dans les stations. On vous dit, on peut vous faire du hors-piste. Ça devrait être impitoyablement réprimé, très clairement.
Oui, mais alors,
c'est scandaleux.
Le hors-piste, c'est facile. C'est-à-dire que le hors-piste, effectivement, tu pourrais dire, vous êtes hors-piste au monsieur, c'est illégal. Voilà, il y a des pistes. Amende. Ok, pas de problème. Ça, c'est facile. Est-ce que tu vas mettre une amende à un mec? Il est à 2800 mètres, il est en basket pour aller gravir le Mont Blanc.
Bah oui.
Il faut
être équipé.
C'est la loi, quoi.
Il faut être équipé. Mais dans la tête de qui ça rentre qu'on peut monter le Mont Blanc en basket?
Le maire de Saint-Gervais, pour ce qui concerne les accès au Mont Blanc qui dépendent de son territoire, il a mis en place un permis pour accéder au Mont Blanc, mais c'est un permis qui est gratuit, mais il y a simplement un contrôle de l'équipement nécessaire. Ce qui paraît,
Alors, un mec qui se baigne à drapeau rouge, même s'il est bon nageur, tu mets une amende.
Drapeau rouge, baignade interdite.
Si jamais cette personne se retrouve en difficulté et qu'il faut aller la secourir,
on va pas la chercher,
le drapeau était rouge, et évidemment que cette personne, enfin, moi, c'est mon avis, elle doit être sanctionnée.
Alors, attention, il s'agit pas de remettre en cause le sauvetage. Moi, à une époque, j'ai fait la promotion de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, qui sont des bénévoles, qui vont au carton. Donc, quand il y a un plaisancier qui, de bonne foi, est parti, se retrouve en difficulté, il faut évidemment intervenir. Mais quand il y a eu au départ une règle enfreinte,
tu vas pas laisser quelqu'un
que ça soit un drapeau. Mais non! mais on met des amendes et on fait comme dans les pays du Nord, proportionnel au revenu. C'est-à-dire que le type qui fait du hors-piste, le type qui a fait du hors-piste parce qu'il a payé très cher auprès d'un guide d'une station pour aller faire du hors-piste, on le cartonne un maximum en termes d'amende proportionnelle à son salaire. Voilà.
Alors, on est avec Pierre-Marie. Pierre-Marie, il nous appelle de Saint-Martin, de Belleville, en Savoie. Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
Et Pierre-Marie, vu que vous habitez en Savoie, pardon, vous avez dû être témoin de pas mal de comportements imprudents, j'imagine.
Ah ben, tout l'hiver, tout l'été, j'en vois tout le temps. J'étais dans l'armée, c'est pareil. Quand on était, on passait, ben, on voyait tous les touristes qui étaient pas équipés, qui étaient au bout de leur vie parce qu'ils étaient fatigués, pas assez d'eau et ainsi de suite. Et oui, s'il n'y a pas besoin d'intervention, tant mieux pour eux. Par contre, au moment où il y a besoin de déclencher les secours parce qu'ils sont en difficulté, bah oui, s'il y a manifestement un manque d'équipement et des imprudences, bah oui, on fait payer.
Et vous les sermonnez, vous, ces vacanciers, parce que c'est souvent des vacanciers, hein, les gens du cru, ils savent à peu près comment s'équiper pour monter une montagne, mais vous les sermonnez quand vous les voyez être imprudents, ces gens?
Oui. Ouais, d'accord. Je leur dis, mais vous êtes fous d'être partis comme ça.
Et c'est efficace? Et
ça vous est pas venu à l'esprit que ça pouvait être dangereux de passer là ou quoi? Donc ouais, je les sermonne, mais il y en a certains, effectivement, qui ont fait demi-tour, il y en a d'autres, bon, bah, ça leur passe au-dessus de la tête, quoi.
Ah oui, donc il y en a, ils s'en foutent complètement, en fait.
Il y en a, ils s'en foutent, oui, complet.
Donc vous seriez après, en faveur
de la... Après, je leur souhaite pas de malheur, mais le jour où il y a...
On leur souhaite pas la mort,
le jour où il y a besoin d'aller les secourir, ouais, Irak.
D'accord. Bah écoutez, très bien, c'est très clair.
Voilà, s'ils sont pas équipés, s'il y a, comme disait Fred Hermel, s'il y a manifestement un manque de préparation et d'équipement ou une règle effreinte comme le drapeau rouge à la baignade, bah oui. Eh ben là, c'est carton. Après, si la personne elle monte au Mont Blanc, qu'elle est équipée, qu'elle est sur le train, qu'elle a ce qu'il faut, qu'elle a l'entraînement et qu'elle a effectivement besoin de la secourir, bon bah d'accord. Là,
c'est logique.
C'est pas de sa faute s'il y a besoin de la secourir, quoi. Mmh. Mais oui, la personne évidemment. Qui monte au Mont Blanc en basket, s'il y a besoin de la secourir parce qu'il a des angeleurs aux pieds, il rate.
Ouais. Non, mais je trouve ça assez logique, effectivement. Merci beaucoup, Pierre-Marie, d'avoir été avec nous. Alors, il y en a un qui trouve pas ça logique, c'est Luc, qui nous appelle de Roquefort-la-Bedoule, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Luc. Loïc,
bonjour,
pardon.
Bonjour à tous. Vous allez bien?
Mais très bien, et vous?
Ça va, très bien.
Loïc, vous voulez pas d'amende pour les imprudents, vous?
Non, parce que dans ce cas, un imprudent, ça, des accidents, ça arrive. C'est le principe même d'un accident. Après, mettre des amendes à tout bout de champ, je pense que c'est trop.
Mais là, c'est pas des accidents.
C'est des accidents par imprudence.
Si vous nagez par drapeau rouge, c'est pas un accident.
Dans ce cas-là, vous montez, vous allez faire une petite balade dans une montagne par chez vous. Vous prenez une petite paire de baskets de trail, par exemple. Vous glissez sur une pierre, vous tordez la cheville ou vous tombez sur la tête et vous faites une fracture au crâne, vous êtes appelé par la gendarmerie.
C'est pas pareil, Loïc.
C'est des accidents. Mais
non, c'est pas pareil. Si vous êtes effectivement, je dis n'importe quoi, vous allez faire un footing en montagne, vous connaissez le coin, etc. Il peut toujours y avoir, c'est les aléas de la vie, un accident, etc.
Après, regardez le nombre de personnes qui sont montées en montagne, en haute montagne, en cordée par quatre. Déjà, vous doutez bien que cordée de quatre, c'est strictement interdit. Et le nombre de fois où c'est des guides de haute montagne qui meurt parce qu'ils sont en quatre, parce qu'il y a un groupe qui est en difficulté et qu'il y en a un qui dévisse et qui tombe, c'est des choses qui arrivent. On peut pas non plus mettre une amende à tout bout de champ comme ça, des personnes totalement
ok. Mais vous baignez avec un drapeau rouge par exemple? Est-ce que vous diriez vous baignez avec un drapeau rouge?
Mais moi, je me baignerai pas par un drapeau rouge. Mais après, il y a plein de circonstances où, par exemple, je sais pas, on peut ne pas voir le drapeau rouge, ou alors on peut dire.
Ou
regardez le hors-piste. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure du hors-piste. Je fais du ski de rando. Ouais. Et souvent, je vais hors-piste. Quand je vais hors-piste, j'ai mon sac airbag, j'ai mon détecteur d'avalanche, j'ai tout ce qu'il faut sur moi, j'ai la sonde GPL. C'est le minimum à sortir après.
Regardez.
Piste, juste à côté des pistes, vous savez très bien, et les moniteurs de ski, c'est les premiers à y aller, que vous risquez vraiment pas grand chose.
Oui, mais sauf que, en fait, Loïc, c'est interdit de faire du hors-piste. Donc, après, vous avez tout votre équipement, etc. Formidable. Mais par exemple, quelqu'un qui va faire du hors-piste de manière totalement imprudente, qui n'a pas de balise, qui n'a pas de pelle, qui n'a pas ce qu'il faut pour faire du hors-piste, il y a quand même un problème.
Des personnes qui vont hors-piste sont équipées en conséquence. Ceux qui sont à côté des pistes, c'est du hors-piste qui sont largement tolérés et largement fréquentés par les moniteurs. Et cela, c'est très rare qu'un équipage se sous avalanche. Après, ceux qui meurent en hors-piste totalement au ski de rando, comme je fais de temps en temps, bon, ben, c'est une avalanche qui part, et puis voilà, on est en dessous, et puis on peut mourir. Et si on se fait récupérer, je vois pas pourquoi on mettrait quand même une amende à cette personne-là, qui est juste partie faire du loisir.
Mais parce que c'est illégal.
C'est illégal.
Et, non, et quand vous passez au rouge avec votre voiture, si vous grillez un feu, monsieur, avec votre voiture, c'est votre voiture. Si vous grillez un feu, vous payez l'amende.
Bien sûr. Et ceux qui marchent avec un casque sur la tête, c'est toujours pareil, c'est la même chose.
Oui.
Ils devraient se prendre une amende.
Et pas la même peine.
Et dans ce cas, payer ses soins aussi. Si vous rentrez dans ce système-là, il y a beaucoup de personnes qui devraient payer leurs frais médicaux ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, on n'est pas dans. Enfin, ça ne marche pas comme ça.
Mais je comprends.
Et moi, je suis désolé, mais la personne qui part au Mont Blanc avec des baskets de trail, je vois pas pourquoi il serait réprimandé.
Bah alors dans ces cas-là, s'il a des engelures en arrivant à 3000, et bah, faut pas le secourir dans ce cas-là.
Mais voilà, bah, faut pas le secourir ou faudra pas qu'il s'étonne dans ce cas-là.
Bah oui, mais en fait, on peut pas laisser mourir les gens non plus, oui.
On va pas les laisser mourir, évidemment. Et c'est pour ça que le service, ils sont là pour sauver. Après. Regardez le nombre de touristes qui montent à l'Aiguille du Midi, qui montent en t-shirt, en short.
Bah c'est complètement crétin.
C'est complètement crétin. Et quand j'ai acheté mon billet pour monter là-haut, est-ce que la personne à l'accueil m'a dit attention, vous n'êtes pas forcément habillé pour.
Ah bah non, bah on monte, bah à, voilà. on monte à des milliers de mètres et bien sûr on.
Rémi, je suis désolé. Rémi, il y a plein de gens qui pensent que l'Aiguille du Midi, effectivement, tu montes à 14h, il fait un soleil de plomb et tu te dis oh là là, il va faire chaud, c'est génial, et t'emportes une petite chemise.
Première, ça serait une première, on va créer une amende sur la connerie. Voilà. C'est formidable.
C'est formidable.
Ce serait une première. Non mais là on prend d'exemple. Excuse-moi, je voulais intervenir juste très rapidement, mais on parle d'exemples très concrets. Enfin, là j'ai un exemple de 2014. J'invente rien. Il y a un père de famille, un Britannique, qui a été secouru par des guides de haute montagne. Il était pris dans un début d'avalanche. Il était à 3700 mètres d'altitude avec ses deux enfants, 11 et 7 ans. Il voulait battre le record du monde d'ascension du Mont Blanc par des enfants les plus jeunes.
C'est des débiles.
Ça rend fou. C'est pas que anecdotique. Le préfet de la Manche là qui râlait, il y a eu la série Lupin. Qui fait qu'il y a eu un afflux de touristes à Étretat et que les gens veulent se prendre en photo. C'est là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le trou de l'homme. Le trou de l'homme, c'est ce creux qui est typique des falaises d'Étretat. On n'a pas le droit d'y aller. La dernière fois, il y a 14 personnes, un groupe de 14 personnes qui a dû être secouru parce que la marée montait. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible.
Alors justement, notre invité sur ce débat, c'est le capitaine de corvette, Véronique Magnien, porte-parole du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Bonjour Véronique.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et
bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Ce serait une bonne idée ces amendes, Véronique?
Alors les amendes, il faut vraiment partir déjà d'un principe simple. En mer, on n'est pas tout à fait comme à terre, c'est-à-dire que globalement, les personnes, même si on leur met des amendes ou quoi que ce soit, quand elles vont prendre la mer, elles peuvent dériver, elles peuvent couler. On a vraiment cette partie qui est quand même assez volatile. Et l'autre point, mais ça, c'était plutôt bien expliqué par vos intervenants juste avant, et c'est aussi ce que vous disiez, la mer, elle remonte très vite. Et quand on se retourne sur le littoral, parfois, on n'a pas pris le bon point de repère. En tout cas, on peut pas aller tout droit. En général, si on fait du tout droit, ça marche pas. Après, on n'a pas forcément que des touristes, c'est-à-dire qu'on a aussi des personnes qui connaissent très bien et qui pêchent un tout petit peu par excès de confiance. Donc ça, c'est vraiment deux points particuliers. Donc on part pas du tout du principe que, alors je vais pas parler pour la montagne parce que c'est pas mon domaine, mais pour la partie maritime, c'est un petit peu pareil. On peut être le plus aguerri, le plaisancier, le mieux équipé. Il n'empêche qu'effectivement, il y a quand même des règles simples à appliquer. Et dans ce cadre-là, la question se pose. Et effectivement, les secteurs qui peuvent être envisagés, c'est des secteurs qui sont très illustratif du phénomène, Étretat, le trou à l'homme. Voilà. Là, c'est vrai que la question se pose parce que c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de personnes, c'est un lieu qui est connu, ou d'autres secteurs qui sont vraiment emblématiques, la baie du Mont-Saint-Michel, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, pour la partie nautique, la difficulté, c'est que l'idée, c'est surtout que les personnes appellent en confiance les secours et ne tardent pas, parce que à chaque fois, elles le font. Assez tardivement. L'autre problématique, c'est qu'elles sont souvent confuses quand on leur demande où elles sont.
Est-ce qu'elles n'ont pas pris de point de repère?
Ben oui, ou même, en fait, quand vous êtes paniqué, vous écoutez les bandes sonores derrière, ou quand vous êtes au centre de sauvetage, dans les crosses, parfois, il y a des personnes qui vous répondent, je suis en vacances chez ma sœur. Non, mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Et donc, c'est bête, mais la personne, quand elle panique, et ça, on a la même difficulté en montagne, il y a ce problème-là. Et donc, parfois, le fait d'avoir une amende peut aussi décaler l'appel. finalement, les gens, quand ils en ont conscience, ils sont plutôt respectueux. C'est-à-dire que pour l'histoire du pavillon rouge, finalement, ils écoutent quand même plutôt bien les surveillants de plage. On le voit à Ouistreham, par exemple, où il y a peut-être des trous, des choses comme ça. Mais effectivement, quand sur la plage, on leur dit y allez pas, ça faut pas y aller. Vraiment en proche côté, ils sont plutôt respectueux. Par contre, c'est vraiment là une responsabilité collective, c'est-à-dire que vous croisez quelqu'un qui va vers la mer alors que tout le monde rentre sur la côte, ben en fait la personne faut lui dire. Et même si elle nous envoie promener, c'est une logique de responsabilité collective et de se dire bon bah on fait passer les informations. Mais effectivement, quand on mobilise des sauveteurs ou des secours héliportés qui ont un coût aussi pour tout le monde, la question se réfléchit. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça le sera pas dans l'immédiat. Mais c'est exactement ce qu'on voit de partout. C'est-à-dire que c'est trop bête de pas passer les fêtes de Noël en famille parce qu'il y en a qui sont morts sur une plage parce qu'ils sont allés chercher des coquillages et qui se sont pas retournés à temps, quoi. Ça, c'est vraiment ce point-là. Et dans une logique très individualiste, alors on entendait aussi parler de certaines pratiques où on dit bah moi c'est mon activité, c'est hyper fun pour moi, certes, mais c'est un peu comme le père de famille qui partait avec ses deux enfants. Très souvent, quand on va se promener sur la plage, on n'est pas tout seul et on emmène des gens, et on a plein de cas où il y en a un qui a pris la décision et les autres se sont
un peu dessus,
en fait, en tout cas, il y a une espèce de sentiment un peu d'impunité en se disant bon, ah, c'est la mer, c'est sympa, on va faire un petit truc balnéaire, mais en fait vous impliquez tout le groupe. Et tout le groupe, ben c'est sûr que trou à l'homme, finalement, il serait quasiment jamais recouvert. Donc parfois, on pourrait faire patienter les gens 6 heures, parce que c'est à peu près le temps d'une marée. Mais la problématique qu'on a, c'est que souvent, les personnes vont essayer de rejoindre la côte et de nager par elles-mêmes. Et c'est quand elles cherchent à repartir à la nage que c'est compliqué. Donc il y a vraiment ce phénomène de milieu. Après, pour la responsabilisation, alors, forcément, ça passe par de la prévention, mais surtout des échanges. Et puis exactement ce que vous faites, ou ce qu'on entend, c'est-à-dire... Faut
après, peut-être expliquer aussi. Après, c'est idiot, mais quelqu'un qui arrive en Bretagne pendant les grandes marées ne sait pas forcément qu'au bureau de tabac, pour 1 euro, il y a les horaires des marées. Ne sait pas forcément qu'il faut prendre un point de repère sur la plage pour savoir exactement où on est, etc. Voilà, il faut, si possible, avoir un vêtement de couleur. Faut avoir un téléphone portable. Voilà, c'est des choses idiotes, mais en fait, si vous êtes pas du coin. Vous le savez, si vous arrivez de Limoges, par exemple, voilà, vous le savez pas forcément. Et peut-être avoir peut-être plus d'explications, finalement, Véronique Magnin.
Alors, là-dessus, franchement, quand on va se promener, faut juste se renseigner, quoi. Faut arrêter de se dire, je vais me faire une balade, tout va se passer sereinement, etc. Vous changez de milieu. C'est effectivement important de se documenter, de se renseigner. Et vous le faites pas que pour vous, vous le faites pour tous ceux avec qui vous partez. Et sur la côte, les horaires de marée, alors pour avoir fait différents littoraux, parfois sur une île, on a effectivement des personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent sur quel endroit de l'île ils peuvent aller pour que la mer soit haute. Bon, évidemment, là, on part de bas, mais il n'empêche que, pareil, quelqu'un qui vient du littoral méditerranéen n'aura pas la même appréhension de la mer. Mais là, attention, détrompez-vous, on a eu 6 morts. On a à peu près 400 personnes isolées par la marée par an. C'est moitié-moitié. Il n'y a pas forcément que des touristes, loin de là. C'est aussi parfois des personnes qui connaissent bien. Et qui
justement pêche par excès de confiance.
Exactement.
Et les sauveteurs risquent leur vie aussi.
Merci beaucoup, en tout cas, Véronique Magnin, pour toutes ces explications. C'était absolument limpide. Et c'est vrai que vous êtes très, très nombreux à nous avoir appelés pour témoigner. Il y avait Henri également, qui a patienté au standard, malheureusement, qui est comptable à Paris et qui dit il faut matérialiser l'imprudence par une amende. Je me suis inscrit pour grimper le Mont Blanc en 2025. Il faut savoir que si un hélico vient vous chercher, ça coûte 10 000 euros. Et si vous n'avez pas réservé de refuge, les gendarmes vous verbalisent là-haut. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Merci Henri de nous avoir informé là-dessus. Et on termine avec le résultat de notre sondage, Rémi.
Oui, faut-il faire payer les imprudents? C'est oui pour 85% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Donc c'est un oui massif. Faites donc bien attention pendant vos vacances. RMC Conso, dans un instant avec Charlotte Mériton, on vous dira comment bien choisir vos lunettes de soleil. Vous savez, est-ce qu'il faut acheter des lunettes, vous savez, à 10 balles des fois qu'on trouve comme ça sur les marchés? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut des verres polarisés ou pas des verres polarisés? On vous dit tout dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tous les jours à 14h30, on parle conso avec Charlotte Mériton. Et c'est tout de suite RMC Conso.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et Charlotte, aujourd'hui, même s'il n'y a pas de soleil, on parle lunettes de soleil. Hein, c'est vrai qu'on en trouve à absolument tous les prix, de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. Tout d'abord, qu'est-ce qui explique cet écart de prix aussi important?
La principale raison, en réalité, c'est la mode, en fait, Estelle. C'est tout simplement, vous payez la marque quand vous payez quelques centaines d'euros. Parce que niveau protection, en réalité, ce qui compte vraiment, c'est ni la marque, ni le prix, mais une petite information qu'on trouve sur la branche de nos lunettes et qu'on ne prend souvent, malheureusement, bien pas la peine de regarder. Vous savez que 3 Français sur 4 ne savent même pas quel est le niveau de protection des lunettes qu'ils ont sur eux.
Oui, bah moi, par exemple.
C'est vrai ?
Mais en vrai, vous connaissez le niveau de protection de vos lunettes ?
Non, d'ailleurs, justement, je ne le connaissais pas. Alors, je suis pas, disons que je suis pas un très bon exemple, pourtant je fais cette chronique, mais je ne savais pas quel était le niveau de protection de mes propres lunettes et je me suis rendu compte qu'elles ne protégeaient pas assez en rédigeant cette chronique et en préparant cette chronique. Donc, bonne question.
Et donc, il y a marqué un petit 1, 2, 3 ou 4 ?
Oui, alors, en fait, ce qu'il faut chercher déjà, c'est la mention CE pour conformité européenne. Donc, ça, c'est écrit, c'est un petit logo CE sur la branche de la lunette. Ça garantit que les UV sont filtrés par les verres. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement ce petit indice entre 0 et 4. Alors sur les miennes c'est 2, mais en réalité ça filtre pas suffisamment. En fait 0 ça filtre rien, 4 ça filtre absolument tout, il y a plus rien qui passe. Donc il faut vraiment regarder ça. Et d'ailleurs j'ai parlé à la SNAV, l'association pour l'amélioration de la vue, qui me disait achetez surtout des lunettes où c'est écrit sur la branche et pas juste sur une étiquette à côté parce qu'il y a beaucoup de fraude.
Ça veut dire qu'on on privilégie évidemment le niveau de protection max, c'est-à-dire le 4, j'imagine.
Alors, le 4, en fait, c'est vraiment pour les situations d'ensoleillement extrême, de luminosité extrême, donc à la montagne ou à la mer. Surtout, ne pas conduire avec des lunettes à indice 4 parce que vous ne verriez plus rien dans les tunnels. En fait, ça vous met dans une complète
obscurité.
C'est carrément interdit, en fait, de le faire. Donc, quitte à s'acheter une bonne paire de lunettes et une seule, autant prendre un indice 3. Ça filtre entre 82 et 92% des rayons du soleil. 100% des UV qu'on ne voit pas mais qui sont nocifs pour les yeux, donc c'est bien.
Oui, mais ça veut dire que c'est plus cher, j'imagine.
Pas forcément. Et d'ailleurs, on trouve des très bonnes lunettes à 15 euros. Enfin, en tout cas, de très bons verres protecteurs. Après, ça sera peut-être au niveau de la monture, la qualité.
Moi, j'ai acheté une paire de lunettes à 10 euros. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Et bah pourtant.
Ou alors, c'est pour me déguiser ou quoi?
Vous savez,
c'est des fausses Ray-Ban que t'achètes au marché. Enfin, super.
Ah ouais. Alors, il faut surtout pas mettre des fausses Ray-Ban, des fausses Chanel ou des fausses Dior parce que il peut y avoir un problème au niveau, évidemment, de la qualité. Mais vous pouvez trouver des bonnes lunettes à moins de 20 euros. Alors, notamment dans les enseignes de sport. Parce que eux, ils font des lunettes qui sont pas chères, mais qui vous garantissent une protection. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement aller chez votre opticien, il peut vous conseiller.
C'est pas les plus sympas au niveau du look, mais enfin, c'est pas.
Oui, là, on parle protection, on parle pas mode.
Bien sûr. Est-ce que plus les verres sont foncés, plus ils protègent du soleil?
Non, ça veut rien dire du tout. Il existe même des verres qui sont complètement transparents et qui filtrent très bien les UV. Donc ça n'est pas du tout une indication. Et d'ailleurs, porter des lunettes avec des verres foncés teintés, mais qui n'ont pas une bonne protection, comme par exemple les fameuses contrefaçons, c'est carrément contre-productif. C'est pire que de ne pas mettre de lunettes du tout, parce que votre œil a l'impression d'être protégé, la pupille se dilate, et c'est là que vous pouvez avoir l'œil brûlé par les rayons UV. Donc attention à ça. Et d'ailleurs, les verres roses, bleus, etc., comme je porte actuellement, les auditeurs ne voient pas, mais j'ai des lunettes rondes plus pour les soirées années 80, mais ça ne filtre rien.
Est-ce qu'il y a un vrai risque à ne pas protéger ses yeux du soleil?
Oui, le principal risque, c'est l'accélération du vieillissement des yeux et donc de déclencher plus tard une maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. D'ailleurs, c'est très important d'acheter aussi des bonnes lunettes de soleil pour vos enfants, parce que c'est comme pour la peau, en fait, c'est dans l'enfance que tout se joue, donc surtout protéger les yeux même de vos bébés.
On est mal barré, les gens de ma génération. J'imagine qu'il faut s'équiper, il y a plus de lunettes. Je veux dire, quand vous allez chez votre opticien le 30 juin que le 2 décembre.
Certes, cela dit, il faut s'équiper dès maintenant. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on ne voit pas trop les rayons du soleil.
J'ai urgent de m'équiper, là, oui.
Peut-être quand. Ah oui, mais justement, ça ne prévient pas. Et le jour où le soleil est là, on se dit, mince, j'ai rien à mettre. J'ai
des rayons
naturels. Bah voilà. Il faut s'équiper maintenant. Pourquoi ? Parce que les rayons sont plus forts entre avril et juin. Donc, il faut, à la limite, c'est même encore plus important de mettre ses lunettes de soleil quand il fait beau entre avril et juin que l'été, même s'il faut aussi les mettre l'été. Mmh. Mais dès maintenant, c'est important de s'équiper.
Merci beaucoup, Charlotte, pour cette chronique lunettes de soleil. On espère que ça va faire revenir le soleil, justement, j'espère, qui nous manque cruellement. Derniers temps, RMC Conso, c'est tous les jours, 14h30, dans Estelle à midi. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette chronique en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, les immanquables avec Rémi
Barré,
Rémi.
Oui, on va notamment parler d'une polémique autour de la GPA, déclenchée par Marion Maréchal Le Pen. Et puis, on parlera également de Emmanuel Macron qui a marqué sur pénalty.
Ah oui, c'était pour le variété de
bruit. Absolument.
Allez, on se retrouve dans un instant sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h39, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Élise Gottfarb et Fred Hermel. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Oh, mais avant cela, oui, vous allez vous faire gagner de l'argent, Rémi.
Vous venez d'entendre le top chrono, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Mmh. Demain, à la même heure, un heureux gagnant sera avec nous pour gratter l'un des tickets RMC et peut-être remporter jusqu'à 26 000 euros. Vous avez maintenant, à partir de maintenant, 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot chance par SMS au 732-16. Chance par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence, Rémi, avec le match du jour.
Emmanuel Macron a disputé hier à plaisir dans les Yvelines un match caritatif, match de football, pour l'opération Piège Jaune. On sait que l'opération est dirigée par sa femme Brigitte, entourée de stars dont certains champions du monde 98 comme Laurent Blanc, Marcel Desailly ou Didier Deschamps. Le chef de l'État a inscrit un but sur pénalty et il a pris ensuite un long bain de foule.
C'est bien de voir le président de la République jouer au foot, Élise Gottfarb, où il a quand même autre chose à faire.
Moi, je trouve ça marrant. C'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. François Hollande l'avait fait. Ouais.
Il l'avait fait l'année dernière aussi.
Voilà. Il a marqué son penalty également.
Moi, j'ai toujours aimé, par exemple, aux États-Unis, voir Obama checker Beyoncé dans les couloirs de la Maison-Blanche. J'aime bien aussi quand les présidents sortent de leur rôle. Donc, ça me dérange pas particulièrement. Après, bon, en ce moment, il y a peut-être autre chose à faire quand même. C'est le bordel, quoi, en ce moment. Mais ça m'a pas non plus dérangé. Je me suis dit. J'aime bien le voir sans son costume, en fait.
Ouais. Bon, après, un match, c'est 1h45 en comptant la mi-temps. Hein. Je veux dire, voilà, il a donné 3 heures de son temps.
Voilà, il a donné 3 heures, il adore le foot.
Bah, c'est ça, en fait. Voilà, c'est pas du foot, c'est pas de la fausse com.
Ouais,
c'est
un vrai fan. Il adore vraiment le foot.
Oui. C'est un vrai fan de foot. Il est fan de l'équipe de France, bien entendu, et de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que ça compte vraiment pour lui. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand des politiques s'inventent des passions comme ça. Oui. Vous vous souvenez un jour Laurent Wauquiez qui a voulu parler de cinéma. On sentait très bien qu'il avait mal lu ses fiches. Il parlait d'À bout de souffle d'André Godard. Mais tu disais, mais vaut mieux te taire. Dis que tu vois pas au cinéma, c'est pas grave, parce que c'est tellement ridicule. Enfin, c'est là. Il fait.
Oh bah le sport, ça se voit tout de suite, hein, quand vous avez jamais joué.
Il fait une activité.
Je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing qui avait fait un match de foot comme ça. Ça lui allait pas du tout.
Par contre, il devait être meilleur au polo.
Et puis la tenue ne lui allait absolument pas.
Oui, par contre, Valéry Giscard d'Estaing, l'accordéon, ça lui allait très bien. Il jouait très bien. Il faut rester dans son domaine de compétence.
Il skiait très bien. Donc,
non, Emmanuel Macron, en plus, le pénalty. Alors, le gardien fait semblant d'être un peu pris à contre-pied.
Le gardien est gentil.
Il est gentil. Mais le pénalty, plutôt bien tiré. Vers à droite du gardien, frôlant le poteau. Non, c'est très correct.
Thierry Moreau.
C'est de la com, parce que c'est de la com pour une bonne cause, bien sûr.
Bien sûr.
Après, on peut pas d'un côté, et moi j'entends régulièrement les auditeurs qui disent, ah là là, on a des hommes politiques déconnectés. Bon, ben voilà, on a des gens qui sont capables de mettre un maillot de foot.
Oui, enfin, ils jouent pas avec Monsieur Michu non plus.
Non, mais enfin, il était dans un stade à plaisir, pas très loin de chez moi. Il y avait des gens autour qui regardaient. Voilà, d'avoir des gens comme ça qui sont un petit peu normaux et qui font une activité normale ne me choque pas du tout. Là, il est dans son rôle de président caritatif pour une bonne cause. Le lendemain, il fait un discours sur l'Europe à la Sorbonne, qui est un truc là où il prend de la hauteur, il est dans son rôle de président. Moi, ça me gêne pas, ce côté multi-facette du président. Avoir un président, entre guillemets, normal qui joue au foot pour une cause caritative ne me gêne pas. Je vois pas du tout la polémique.
Et il y a 2 ans, il avait joué contre une équipe de soignants. Exactement. Qui avait été très impliqué, bien entendu, dans la lutte contre le Covid. Donc,
voilà, c'était vérité que le France.
Ben oui, il y a eu polémique parce qu'il y a plein de gens qui disent sur certaines chaînes de Tout Info notamment que c'est pas le rôle d'un président de descendre comme ça sur un stade de foot et jouer au foot. Voilà, il y a eu cette polémique là depuis quelques heures.
En tout cas, ça a rapporté de l'argent au PSG. C'est la deuxième fois qu'il le fait. C'était plutôt très bon enfant. On va passer tout de suite à la polémique du jour, Rémi.
Polémique après le message posté sur X, ex Twitter, par Marion Maréchal au sujet de l'annonce de la naissance des enfants du styliste Jacques Mus et de son compagnon. Naissance faite par GPA. La tête de liste du parti Reconquête aux élections européennes s'est interrogée dans son poste, où est la maman? La porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot rappelle que l'homophobie est un délit, alors que le député de Paris et ancien ministre des Transports Clément Beaune condamne un propos dégueulasse.
Il y a une polémique évidemment sur ce tweet. Élise Godefarb, vous voilà, c'est votre sujet de prédilection, tout ce qui est GPA, PMA. Vous avez été choquée par ce qu'elle a écrit, Marion Maréchal Le Pen?
Non, mais pour moi, je suis désolée, c'est des débiles, en fait. Il n'y a pas un parti politique, je sais pas pourquoi elle nous saoule, il n'y a pas un parti politique aujourd'hui, de toute façon, qui est prêt à voter la GPA. C'est même pas un sujet de société.
Si.
Non. Ah non, bah je peux te dire, j'ai fait un podcast pendant les présidentielles où j'ai interrogé tous les candidats. Il y en a pas un qui déjà savait en quoi ça consistait.
À l'heure actuelle, ça n'est jamais interdit,
c'est pas un sujet qui est sur la table. Donc déjà, pourquoi elle vient nous saouler? Où est la maman? C'est de la provocation.
Mais elle réagit à une photo en fait.
Voilà. Aujourd'hui,
c'est effectivement la GPA est illégale en France, n'est pas autorisée. T'as une photo avec deux papas, donc elle dit je suis surtout
bien
pas
sûr,
là
bien
pour
voilà, elle dit où est la maman
pas, mais où est la maman, donc elle s'interroge sur la GPA. Il faut quand même rappeler que la GPA, encore une fois, en France elle est illégale.
En France elle est illégale.
On peut traduire aussi son message au-delà de la GPA. Enfin, je suis désolé. Elle peut aussi. Elle met juste où est la maman. Elle pourrait dire la même chose si, par exemple, les enfants avaient été adoptés.
Tu sens bien que non, quand même.
Moi, je ne sens rien. Je sens que simplement.
Elle le fait parce que c'est un couple homosexuel.
Si on sent les choses, moi, je me. C'est la manif pour tous. C'est un papa, une maman. Est-ce que Marion Maréchal est pour simplement que deux hommes ensemble, élève, puisse élever un enfant, quel qu'il soit.
Mais je pense qu'elle est contre.
Elle est visiblement contre.
Mais on peut être contre la GPA et être à fond pour le mariage pour tous.
Oui,
bien sûr.
C'est mon cas.
Oui, mais.
Je vais même te dire, je suis catholique pratiquant, et je suis même pour le mariage homosexuel à l'église.
C'est pour ça que je précise.
C'est-à-dire vraiment. Ouais. Par contre, la GPA, je considère cela comme quelque chose de dangereux et de malsain.
Oui, mais la GPA.
Je suis heureux que mon
mari. Et malsain pour qui?
Pour la femme.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est. Non, ça suffit sérieux, je vais jusqu'au bout.
Oui, termine.
Et le président de la République a rappelé que c'était une pratique illégale, qu'il était gêné par cette pratique. En France, c'est illégal. Mmh. Et d'ailleurs, hier. Oui, Thierry, en France, c'est illégal. En France, on ne peut pas pratiquer la GPA.
Termine.
Voilà, c'est la réalité. Hier, la Commission européenne a fait passer. Commence à travailler sur un projet de loi. Considérer la GPA comme de la traite des êtres humains. Donc, il y a une vraie réflexion, c'est suite à une proposition de François-Xavier Bellamy.
Je suis pas du tout d'accord.
Non, mais c'est pas moi. J'informe sur ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne. Donc là, il y a un revirement à ce niveau-là. On a le droit.
Oui, mais c'est les Républicains, c'est les mêmes qui allaient marcher contre le mariage homosexuel.
Excuse-moi, je termine. Marion Maréchal, on parle tout le temps de l'invisibilisation des femmes dans la société. Marion Maréchal a le droit de se poser la question. Où est la femme, où est la maman de ses enfants?
Mais elle le sait très bien. Non, mais après.
Excusez-moi, quand on voit, par exemple, les patrons du CAC 40 et qu'on fait où sont les femmes, c'est pareil.
Le problème,
il n'est pas là. Le problème, il est que la GPA est illégale en France.
Oui.
Point. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'une partie de la population riche peut se permettre de faire de la GPA à l'étranger.
Oui. C'est vrai.
Et
aux
ça, c'est
200 000
donc,
euros.
C'est donc une discrimination par rapport à des gens qui... Alors là, le débat éthique s'enclenche. Est-ce que oui ou non, on autorise deux personnes du même sexe à adopter un enfant par la GPA? Ça, c'est un vrai problème. Mais le fait qu'aujourd'hui, une partie de la population qui a les moyens le fasse en le faisant à l'étranger et ratifiant ensuite ça par des papiers français, c'est un problème. Moi, je suis pour la GPA, à condition qu'elle soit très encadrée et de façon à éviter ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire une marchandisation du corps, ben oui, des choix sur bien catalogue.
Et en Ukraine et en Inde.
Avec non, des... alors il y a des pays où ça se passe très bien.
Il y a des pays où ça se passe très bien.
Ça s'appelle la GPA éthique.
Absolument.
Ce sont des modèles de GPA dans lequel non seulement soit la personne est remboursée par la sécurité sociale, donc c'est
exactement
pas un salaire, soit c'est quelqu'un de proche de toi, donc c'est un ami, une cousine, ta sœur, comme dans Friends. Vous rappelez dans Friends, Phoebe, elle porte
des par amour,
son frère.
Qui le fait par amour.
L'immense majorité des GPA dans le monde.
Si on les encadre. Oui, mais si
En Inde, il y a des usines à enfants.
D'accord, mais la
c'est une réalité.
D'accord, ça ne veut pas dire qu'en France, on va faire pareil.
Mais moi, je suis contre la marchandisation du corps de la femme.
La plupart des couples aujourd'hui homosexuels qui vont faire une GPA, ils vont la faire au Canada ou aux États-Unis, où c'est extrêmement encadré.
Ça coûte de l'argent.
Oui, ça coûte.
Après, moi, je suis pour l'adoption. Je suis pour l'adoption.
Alors,
il y a un problème. C'est qu'en France,
l'adoption, elle est très fermée. D'ailleurs, il y a aussi du trafic d'enfants.
Il y a aussi des contre ça aussi.
Et je vais te donner un exemple. J'ai deux copines homosexuelles donc qui ont un enfant avec par PMA, mais avant elles ont voulu adopter et en fait quand on sait que tu es homosexuel, l'adoption est très compliquée, et on leur a dit mais de manière très cash, pour vous ce sera ou une fratrie ou des enfants avec un handicap.
Ouais.
Voilà.
Pourquoi
donc, voilà France, ce qu'on te répond.
Il y a un vrai problème d'adoption.
Ben oui, mais
évidemment, il se trouve que mon ami Jean-Noël, dont j'étais le témoin à son mariage gay en Angleterre, avec Tura, ils ont adopté un garçon.
Oui,
voilà. En Angleterre, c'est-à-dire que dans l'ensemble de la société, l'adoption est beaucoup plus facile.
On a un vrai problème d'adoption.
Il y a un problème déjà en France d'adoption.
Oui,
donc voilà, si il y a pas assez d'enfants,
c'est pas tellement de critères.
La GPA. Oui, mais en fait, non, si mais, vous voulez,
je termine. Le problème, c'est qu'en France, une carte postale tous les 3 ans constitue toujours un lien avec les parents, etc.
Oui,
donc les enfants ne sont pas adoptables. Il faudrait ouvrir plus l'adoption pour qu'un maximum de gens qui n'ont pas d'enfants puissent adopter des enfants.
Mais tu auras toujours des gens qui vont vouloir avoir ne pas passer par l'adoption et avoir que l'enfant ait un papa ou une maman biologique.
Et surtout, il faut se dire un truc, c'est que l'argument du Rassemblement National et de Reconquête et de la droite en général.
Non, il y a des gens à gauche qui sont contre la GPA.
Je sais pas. Jean-Luc Mélenchon est contre la GPA.
Exactement.
Il l'a dit à mon micro.
Alors, il a dit qu'il était contre la GPA, mais il a dit également qu'il était pour que les enfants nés de GPA puissent avoir des papiers français.
Normal, mais
il l'a dit lui-même, j'ai une position ambiguë sur ce sujet, mais je ne peux pas vous en donner
la raison ancestrale, en réalité, de l'interdiction de la GPA. Oui, donc il y a ce truc de protéger la femme, ne pas la marchander, mais il y a aussi un côté religieux du besoin de procréation dans nos religions. Or, dans des états religieux, comme par exemple Israël, où la GPA est autorisée, on a remarqué qu'en fait, une fois que tout le monde peut avoir un enfant, même les homosexuels, il n'y a plus de problème.
On va tout de suite accueillir. C'est la fin de ce débat. Nous allons accueillir tout de suite Vincent Cerussi. Cerussi n'a pas tout compris notre minute humour.
RMC Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle.
Bonjour Vincent. Bonjour.
Aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Emmanuel Macron a joué un match de foot. On en a parlé il y a quelques instants.
Je suis obligé d'en parler. On a un président de la République
et en même temps
un footballeur. Voilà, les deux. Bah, après la boxe, maintenant le foot. C'est plus l'Elysée, c'est Fitness Park. Bientôt on va le voir faire du saut à la perche. Il va venir pour les JO en aviron. Bon après il va être bon. Il a l'habitude de ramer parce que mais le foot c'est pas trop ça. Le PSG a fait une offre de transfert de Macron au PSG 1 euro. Voilà, 1 euro. C'est plus M claqué, c'est plutôt Mbappé là, compliqué.
Vincent, vous êtes quand même dur. Le président a marqué sur pénalty.
Évidemment, le gardien a pas bougé. Vous êtes marrant. Oui, en même temps, c'est normal. T'arrêtes un pénalty de Macron, tu te prends un contrôle fiscal dans la semaine directement. Après, je préfère que ce soit Macron qui joue au foot que les autres ministres du gouvernement. T'imagines ce que ça donnerait? Et nous accueillons Bruno Le Maire, arbitre de touche, il sert à rien. Darmanin, arbitre général, il met des cartons rouges pour expulser tout le monde. Gabriel Attal, lui c'est un des gosses là qui tient la main des joueurs de foot. Et enfin Christophe Béchu, ministre de l'écologie, lui c'est un réserviste, personne ne le connaît. Voilà.
Certains ont quand même dit que le président avait bien joué.
Oui, Marcel Desailly, quand on lui a demandé qui était le meilleur joueur, il a répondu le président. Voilà, si vous voulez le nom du futur ministre des Sports, vous l'avez.
Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé si on avait le droit de faire manquer l'école à ses enfants pour partir en vacances.
Alors ça, bon, déjà pour commencer, je pense que c'est plutôt les profs qui ont besoin de souffler. Moi, ma cousine a été voir la prof de sa fille pour lui demander si elle pouvait la prendre en vacances. Le prof a répondu, je peux venir avec vous. Ils sont vraiment dans la merde. Évidemment, ma cousine a dit non. Et à l'aéroport, ils ont retrouvé le prof dans la valise, comme dit Élise.
Miskin, comme on dit.
Miskin. Alors bien sûr, les élèves doivent suivre les cours, mais pas pour tout le monde, visiblement. Et là, je vous ai découvert colère, hein, Estelle. Tous vos défauts résumés en un débat. On a vu Estelle radine.
En plus, excusez-moi, mais ça coûte 10 fois moins cher de partir le jeudi soir que le vendredi soir.
Voilà, pour payer un Ouigo 152 euros au lieu de 159.
Non, mais pas du tout. C'est 25 au lieu de 150. Bah oui, on est 4.
Vous avez aussi de mauvaises fois, Estelle. Hein.
Bien content, les profs, de faire non, cours quand il y a 22 élèves au lieu de 35.
Deux élèves aussi, tant que vous y êtes.
Bah, c'est mieux.
Des cours particuliers. Oui. Mais encore, si c'était que ça. Parce que la perfidie d'Estelle va quand même plus loin. Non, mais si vous dites, par exemple, que votre enfant était à un enterrement et que le prof crame qu'en fait, il était en vacances. Réponse d'Estelle.
Il y a des gens qui meurent même sur la Côte d'Azur.
Vous êtes pas. C'est fou quand même. Et encore, c'est pas fini, cerise sur le gâteau. Parce que Thierry a eu le malheur d'emmener une fois sa fille à New York hors période scolaire. Réponse d'Estelle.
Oh là là, quel délinquant.
Non mais attendez.
Lui, c'est mal.
Mais si y a un délinquant, c'est plutôt vous, c'est pas Thierry le pauvre.
Non, n'exagérez pas.
On a tout vu. Hein.
Bah, donc vous, Vincent, vous êtes contre les enfants qui partent en vacances en période scolaire.
C'est pas de la faute des enfants, comme l'a dit Élise.
C'est de la faute des parents. Ils sont pour rien, eux, c'est des kiffeurs.
Les enfants, c'est des kiffeurs. Ouais. Attends, tu déconnes ou quoi? Bien sûr. Ah bah oui, bah attendez, pour Élise, c'est du sérieux. Hein. Pour elle, l'école est synonyme de pacte social. D'ailleurs, elle nous l'a livré dans une analyse claire de la société.
Je compare tout le temps la société à une cigarette. Ce serait quoi? Ce serait de rerouler cette cigarette en entier. Sauf que qu'est-ce que fait le gouvernement? La cigarette est dans la société. Hein. Le gouvernement, au lieu de rerouler la cigarette, eh ben, ils te mettent juste du tabac au-dessus et ils disent « Regarde, j'en ai rajouté !» C'est une super image.
Quelqu'un a compris.
Non. Ouais. Et les gars, c'est une super image. J'ai pas osé lui dire parce que je l'aime bien.
Ouais, moi aussi.
Mais tu sais, quand je fais ça, c'est qu'en fait, je m'en fous.
C'est ça. Comme pendant ma chronique.
Oui, aussi.
C'est ça. Non, mais je peux comprendre quand même qu'on emmène les enfants en vacances en période scolaire, ça peut arriver. Mais bon, vous, Estelle, vous les emmenez en Bretagne, quoi. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils préfèrent rester à l'école, tout simplement. Vous savez ce que font les enfants d'Estelle quand ils manquent l'école?
On regarde Choupi ou je ne sais quoi, et on prend un goûter.
Ils sont majeurs. Ils sont majeurs.
C'est pas ce que j'ai dit. Mais vous travestissez mon propos.
Je travestis pas. Je pense que voilà, on peut encore le dire.
Miskine, comme on dit.
Miskine pour les enfants.
Mais le vrai problème, c'est quand même qu'il existe des sanctions contre les parents qui font sécher les cours aux enfants. Enfin, on aura tout vu.
Non, mais ça, c'est les génies. Le gouvernement, ils disent que l'école est importante pour la construction sociale des enfants. Et si t'emmènes ton gosse à Marrakech hors période scolaire, c'est 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison.
Voilà.
Donc, niveau construction sociale, tu vois pas ton père pendant 2 ans, mais je préfère partir au Maroc.
Merci beaucoup, Vincent Cerroussi. Tous les jours, 14h50, dans Estelle Midi et en podcast. Vous pouvez retrouver cette chronique, bien sûr, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.